Vous écoutez
RMC.
Un bon réveil avec RMC, il est 8h02.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal de Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une, plus de tolérance dans les supermarchés.
Plusieurs enseignes de la grande distribution s'engagent à être plus flexibles sur les tailles et l'apparence des fruits et légumes. Très petits cet été à cause de la sécheresse. Après les impôts, l'éducation nationale, les données de millions d'élèves et d'enseignants dans la nature, cyberattaque revendiquée par le même groupe de hackers et puis trois noyades évitées de justesse. On vous raconte ce sauvetage in extremis en Normandie grâce à un policier au repos.
Des fruits et légumes plus petits sur les étals.
C'est une des conséquences de la sécheresse historique de cet été qui a aussi considérablement fait chuter les rendements et fait augmenter l'inquiétude des producteurs. Leur appel a été entendu en attendant les aides de l'État. C'est la grande distribution qui annonce des mesures de soutien, des paiements plus rapides et surtout de la tolérance sur les calibres, sur l'aspect aussi des fruits et légumes auxquels vont devoir aussi s'habituer les consommateurs. Amélie Courtet.
Dans le chariot d'Adeline, une tomate jaune côtelée.
Mais voilà, pas très belle, mais...
Quelques taches brunes sur le dessous, un coût plus élevé.
Elle sera bonne. On vise français et je suis prête à faire un effort de payer un peu plus cher, mais si ça retombe dans la poche des agriculteurs, c'est OK.
Tant pis pour la forme, la couleur, comme dirait Michel.
Chez mes parents, il y avait un grand jardin et on mangeait des carottes, qu'elles soient tordues ou droites. La soupe était aussi bonne.
Sur le parking de ce supermarché, la sécheresse subie par les maraîchers, on en a conscience.
Les pauvres, ils souffrent. Hein.
Alors le soutien de la grande distribution...
Bah, il était temps, hein. S'ils s'y mettent, je dis bravo.
Et justement, certains ont déjà commencé. Moins de salades, de tomates cet été dans ces rayons. Jean-Baptiste Doumerou, directeur d'un intermarché, est donc plus tolérant.
On accepte tous les produits qu'on refuserait normalement, en termes de qualité, en effet en termes de calibre.
Parce qu'on se pose pas la question. On tire pas sur la main qui nourrit, c'est une leçon.
Mais ces efforts doivent aller plus loin, appelle l'agricultrice Marie-Amélie Viargue.
On a vraiment besoin d'un coup de pouce économique aussi, pas juste on va être moins regardant sur l'aspect. Ils ont des marges.
Les distributeurs affirment déjà rogner sur leur marge pour contenir la hausse des prix, plus 13% par exemple pour les courgettes, tomates, aubergines par rapport à l'an passé.
Le gouvernement présente ses excuses après une troisième cyberattaque contre le fisc, moins sensible que le vol des données d'environ 700 000 contribuables. Celle-ci concerne les cadastres et les données liées aux successions. Nos systèmes d'information comportent des faiblesses, reconnaît le ministre des Comptes publics, David Amiel. On pourrait en dire autant du côté du ministère de l'Éducation nationale, victime à son tour du même groupe de hackers Zero Bytes qui revendique le vol des données de plusieurs millions d'élèves étalés sur une vingtaine d'années en arrière, des noms, des adresses mail et postales, et beaucoup d'inquiétudes pour les parents et les élèves que vous avez rencontrés, Philippine Boulet.
À la rentrée, Tsipora va rejoindre l'éducation nationale. Elle figure donc déjà dans les fichiers. Il y a 5 jours, elle reçoit un mail inattendu.
M'informant que mes données ont été piratées.
Et la liste des informations volées est longue.
Nom, prénom, genre, adresse email, adresse postale, numéro de téléphone, ville de naissance, date de naissance, nationalité. C'est inquiétant.
Un message face auquel elle se sent bien impuissante.
Je peux pas porter plainte, je peux rien faire. Qu'est-ce que je fais?
Mais les membres du personnel ne sont pas les seuls touchés. 22 millions d'élèves de la maternelle au lycée sont aussi concernés, selon le site French Bridges, de quoi tracasser Faustine, bientôt en classe de 6e.
Moi, je veux pas qu'on sache des choses sur moi, j'ai envie de rester tranquillement chez moi.
Son père, Thomas, a une seule question en tête.
Ça sert à quoi? Ça sert forcément à quelque chose, parce qu'ils vont toujours trouver un moyen de le vendre à quelqu'un. On se dit, on est d'un coup vulnérable, ou les enfants sont vulnérables.
Aziza a 4 enfants. Sur Internet, elle veille à préserver au maximum leur anonymat.
Je ne poste pas de photos de mes enfants.
Elle regrette que l'État n'ait pas la même vigilance pour protéger leurs données.
À eux de faire le nécessaire. Il faudrait qu'ils soient un peu plus vigilants pour justement bloquer l'accès à ces informations qui sont très très confidentielles.
Après cette fuite de données, elle compte sur les établissements scolaires pour contrôler davantage les visiteurs.
La loi sur l'aide à mourir promulguée par Emmanuel Macron après le feu vert la semaine dernière du Conseil constitutionnel. Cette loi permettra à certains patients de s'administrer un produit létal en présence d'un soignant en cas d'affection grave et incurable en phase terminale ou avancée, de souffrance physique insupportable et à condition d'être capable d'exprimer un choix éclairé jusqu'au dernier moment. Paru également au journal officiel ce matin, la loi d'urgence agricole pour répondre à la colère des agriculteurs qui réintroduit notamment des pesticides pesticides autrefois interdits.
Il est 8h06 sur RMC dans le Var. Après des mois de combat, l'incendie du Gros Bessillon est officiellement éteint.
Annonce de la préfecture hier soir, 6300 hectares partis en fumée. C'est le feu le plus long de l'histoire du département. L'heure de la reconstruction désormais dans tous ces départements en proie aux flammes cet été. Depuis la Gironde, le Premier ministre Sébastien Lecornu avait mis la pression en début de semaine aux assureurs, leur demandant de jouer le jeu et donc d'aller vite. Mais Alexandre Thibault, on ne peut pas dire qu'ils prennent leur temps. Les sinistrés commencent déjà à être dédommagés.
Oui, l'un d'eux me disait qu'en moins d'une semaine, il a été remboursé pour l'ensemble des destructions à l'intérieur de sa maison. Il a aussi reçu 500 euros de son assurance pour s'acheter des vêtements et 3 semaines de loyer pour son logement provisoire. Des moyens donc pour des milliers de sinistrés. 1220 chez Crédit Agricole Assurance, 2600 à la Massif et 3000 pour le groupe Covéa qui regroupe la MAF, GMF et MMA. Covéa qui relève 35 millions d'euros de dégâts pour le moment, car les chiffres évoluent, tout le monde n'a pas encore déclaré son sinistre et la date pour le faire a été repoussée au 31 août. Quoi qu'il en soit, on répondra présent, assure un des poids lourds du secteur. Il glisse même qu'ils ne regarderont pas tout dans le détail et qu'eux-mêmes doivent être souples sur le montant des indemnisations.
Et on y revient à 8h40 tout à l'heure avec Yann Arnaud, directeur assurance dommage à la Massif, qui a peu goûté les critiques du Premier ministre en Gironde lundi. On en vient à ce sauvetage en début de semaine en Normandie.
3 adolescents de 15 à 18 ans sauvés de la noyade près d'Étretat à Saint-Jouin-Bruneval. Romain Houck, sauvé par un policier qui était en repos. Il a témoigné ce matin sur RMC.
Il est environ 21h à Saint-Jouin-Bruneval. Sébastien, policier au repos et élu de la commune, profite de sa soirée en compagnie de sa femme, attablée dans un restaurant de plage. Son regard se tourne alors vers la mer.
J'ai vu une dizaine de personnes commencer à se baigner, mais alors pile là où il fallait pas, c'est-à-dire dans le courant. Certains ont commencé à s'éloigner un peu plus du bord.
Très rapidement, la situation dégénère. 3 jeunes de 14 à 16 ans se retrouvent en grande difficulté. Sébastien se rue sur la plage et emprunte le paddle d'une baigne.
J'ai pas hésité une seconde, je me suis mis à l'eau, j'ai ramé pour aller jusqu'à la première personne qui commençait à boire l'eau.
Tant bien que mal, il parvient à charger 2 des 3 ados sur la planche.
C'était compliqué, il y avait quand même quelques vagues et j'ai nagé à contre-courant parce que je pouvais pas éviter le courant, on était trop lourd. Et donc j'ai bataillé pendant 40 minutes pour pouvoir essayer de regagner le rivage comme je pouvais.
Entre-temps, les secours arrivent pour les prendre en charge, les pompiers, un hélicoptère. Presque miraculeusement, le 3e adolescent parvient à regagner la rive par lui-même. Tous sont désormais sains et saufs. Et Sébastien, lui, n'a aujourd'hui qu'un souhait.
Les jeunes étaient épuisés de la situation. Donc moi, mon but aujourd'hui, ce serait de pouvoir les rencontrer. Oui.
Un geste héroïque qui rend fière toute une commune. La mairie a d'ailleurs salué le sang-froid et la réactivité de son élu.
Récit signé Romain Houck pour RMC. En football, l'Olympique Lyonnais a une victoire de se qualifier en Ligue des Champions. Ils ont résisté hier face au Fenerbahçe en barrage aller, mais n'ont pas réussi à s'imposer. Match nul un partout. Victoire donc obligatoire la semaine prochaine au Groupama Stadium. Et le coach Paolo Fonseca espère que les supporters seront nombreux.
Je m'attendais à voir notre stade plein, à créer la même atmosphère. Nous voulons avoir notre supporter pour supporter l'équipe, tout le match. Je pense que la qualification sera disputée jusqu'à la dernière minute et nous avons besoin de notre supporter.
Et puis on a appris hier la mort d'un batteur emblématique. Vous reconnaissez Mathieu? Ouais, Dizzy Top, ouais, effectivement, Frank Beard, qui est mort en soins palliatifs à l'âge de 77 ans. Il était très malade. L'Américain ne jouait plus depuis quelques temps à cause de ses problèmes de santé. Le groupe légendaire, originaire du Texas, annule plusieurs concerts avant de reprendre sa tournée ce week-end.
Merci beaucoup, Clara Gabillet. Il est 8h10 sur RMC et Sophie est en ligne avec nous depuis l'Oise. Bonjour, Sophie.
Bonjour l'équipe.
Soyez la bienvenue Sophie, vous avez réagi à cette annonce des distributeurs, de la grande distribution qui veut venir en aide aux agriculteurs en revoyant les calibres, en achetant les fruits et légumes moches, pour le dire simplement.
Oui, franchement, enfin, qu'est-ce qu'on en a à faire du calibre, de tant qu'elles sont bonnes et puis que les prix sont pas trop... Moi j'achète plus tellement dans les grands magasins justement parce qu'elles sont... Je connais pas leur système de refroidissement, mais quand on arrive chez nous, les légumes, les fruits, ils ont plus de goût, ils sont tout rabougris. Moi j'achète à la ferme, sur les brocantes, au marché, des gens aussi qui en ont eu trop, qui en donnent. Et franchement,
les fruits et légumes normaux, parce qu'on dit moche.
Ouais, enfin, mais... ils ont tous le même goût. C'est pas, c'est même rigolo des fois les tronches qu'ils ont. Franchement, c'est.
Alors après, très sincèrement, oh, je suis d'accord avec vous, Sophie, ça amuse beaucoup les gamins en plus. Mais on fait un peu le procès de la grande distribution ce matin sur cette histoire de calibrage, parce que c'est eux qui l'ont imposé, etc. Mais eux vous diront aussi hein, que les clients achètent le fruit qui est brillant, qui est beau, qui a la bonne forme. Hein. C'est aussi le client qui doit être responsabilisé, non, Sophie?
Ah si oui, je suis tout à fait d'accord, bien sûr, évidemment. C'est comme tout en fait dans la vie, hein. C'est toujours le paraître et je suis tout à fait d'accord. Il n'y a pas que la grande distribution, ils répondent à l'attente des oui. gens et de mais bon voilà, quand il n'y a plus rien, ben de toute façon on sera bien obligé de s'y faire et puis c'est bon, pas
la
grave.
La question
quoi.
Ce sera aussi à quel prix hein, avec la sécheresse, puisque moins de production et la même demande, il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études à HEC pour comprendre que les prix vont augmenter encore. Sophie, merci beaucoup. On pose la question ce matin, est-ce que vous êtes prêt à acheter des fruits et légumes moches? Sophie dit oui, sans souci, qui se moque des calibres de la grande distribution. Il est 8h12. Val-de-Brié, en Meurthe-et-Moselle, 8000 habitants et plus d'urgence adulte à l'hôpital jusqu'au 25 août. Faute d'urgentiste, je dois prendre mes responsabilités, dit le directeur de l'hôpital, Dominique Peljac. C'est notre invité dans un instant sur RMC, RMC Story. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Il est 8h15, vous êtes sur RMC, RMC Story, très bon réveil, c'est l'été et parmi les sujets auxquels on s'habitue en période estivale, la fermeture des services d'urgence, souvent en zone rurale, faute de personnel suffisant. Parfois c'est un service qui est réduit, hein. Saint-Louis dans le Haut-Rhin, Lillebonne en Seine-Maritime, Sainte-Foy-la-Grande, ça c'est en Gironde. Et à Val-de-Brié en Meurthe-et-Moselle, 8000 habitants, les urgences adultes de l'hôpital Maillot sont fermées. Pas de médecin urgentiste disponible. Une décision qui est assumée par notre invité et je le remercie d'accepter de nous répondre. Bonjour Dominique Peljac.
Bonjour à vous, merci de m'accueillir sur votre antenne.
Vous êtes le directeur général du CHR Mestionville et de l'hôpital Maillot de Val-de-Brié. Alors ce matin, Val-de-Brié, qu'est-ce qui est ouvert, qu'est-ce qui est fermé?
Alors ce qui est ouvert, bien évidemment, c'est l'hôpital. Vous avez parlé de fermeture, l'hôpital n'est absolument pas fermé. Ça c'est très très important, la population doit continuer à venir dans l'établissement, bien évidemment. Sur la partie urgence, vous avez parlé des urgences adultes. Effectivement, c'est sur ce secteur que nous avons des difficultés. On va y revenir. Mais la partie obstétricale, la maternité, les urgences pédiatriques sont totalement ouvertes. Et j'invite encore une fois la population, bien évidemment, à venir si besoin.
Alors, combien d'urgentistes est-ce qu'il vous manque exactement?
Alors, sur notre établissement Val-de-Brié, qui est le nord de la Meurthe-et-Moselle, nous sommes actuellement sur 4 urgentistes, postes d'urgentistes vacants, vous voyez, sur 10, ce qui peut, effectivement, ce qui nous conduit à des difficultés en période estivale, vous l'imaginez bien.
Voilà, et vous avez du mal à recruter avec une particularité régionale hein, pour vous, et j'insiste pour nos auditeurs, c'est qu'il y a une concurrence avec le Luxembourg.
Alors oui, effectivement, nous sommes à 3 frontières dans notre territoire, avec effectivement la Belgique, l'Allemagne et le Luxembourg. Et c'est une différence de rémunération majeure qui existe entre les pays voisins et nos établissements publics et privés d'ailleurs.
Oui, vous avez des médecins urgentistes diplômés français qui pourraient assurer les remplacements, qui préfèrent aller au Luxembourg parce que c'est mieux payé.
Et d'aller au Luxembourg ou dans une structure privée pour lequel les rémunérations sont largement plus élevées que l'hôpital public, oui.
Faute de personnel, ça veut dire quoi? L'été, on a notre santé qui est au rabais?
Alors absolument pas. Ce qui est important de rappeler pour celles et ceux qui nous écoutent et qui sont effectivement dans le nord Meurthe-et-Mosellan, c'est que toutes les urgences vitales, toutes les urgences graves sont prises en charge. Sont prises en charge parce que c'est coordonné bien évidemment par l'ensemble des SAMU, que ce soit celui de Meurthe-et-Moselle ou celui de Moselle. Et par définition, les patients chroniques sont toujours pris en charge lorsqu'il y a une urgence grave. Donc il y a une continuité en tant que telle et je voudrais vraiment rassurer la population de ce point de vue-là. Vous savez,
non mais, c'est important inquiet. Ce que vous dites, Dominique Peljac, mais si j'entends qu'on doit être transféré parce que vous êtes coordonné avec le SAMU, etc., des kilomètres, c'est du temps et donc c'est des pertes de chance, non?
Non, c'est l'inverse, c'est la sécurité qui joue. Vous imaginez bien que ma responsabilité, vous l'avez repris dans votre introduction, c'est précisément assurer la sécurité des patients. Vous imaginez bien que nous n'allons pas faire en sorte d'ouvrir les urgences, sauf qu'il y ait d'urgentistes. Donc, il n'y a pas d'urgentiste, nous ne pouvons pas ouvrir les urgences actuellement.
Oui.
Donc,
oui.
La sécurité, c'est précisément d'assurer la continuité des soins en tant que tel.
Oui, oui, non, mais ça, j'entends complètement, et la responsabilité est totale dans votre explication. Vous êtes en train de nous dire, j'ai pas d'urgentiste, je veux pas ouvrir un service d'urgence, ça fait un sens colossal. Mais par rapport à la normale, par rapport à un service d'urgence qui tournerait et qui serait disponible pour les habitants de Val-de-Briey, là, il y a une perte de chance.
Je redis que non. Il n'y a absolument pas de perte de chance, puisque précisément, la sécurité est assurée, je le redis, en termes d'urgence vitale, en termes d'urgence grave qui peut arriver à domicile, sur la voie publique, oui. Peu importe, les transports sont assurés par les pompiers et par le SMUR dont j'ai la responsabilité, oui. Tant en Meurthe-et-Moselle qu'en Moselle.
Oui, donc, oui, non, je précise par ailleurs que vous dirigez aussi le CHR Mastionville, donc en fait, le désengorgement de l'un pour l'engorgement de l'autre, vous êtes concerné directement sur tous les fronts. On va accueillir Lydie, oui. Qui habite chez vous, qui est policière municipale en Moselle. Bonjour Lydie.
Bonjour.
Soyez la bienvenue, vous vous retrouvez confrontée à la fermeture des urgences adultes de Val-de-Briey.
Oui, en fait, mon fils s'est ouvert l'arcade cette semaine.
Ouais.
Et comme je savais que les urgences étaient fermées, j'ai appelé le 15, il m'a envoyé à Mercy.
Ça fait quelle distance, pardonnez-moi ? À Metz, pardon.
J'ai mis 40 minutes pour y aller.
Oui, alors Lydie, je parle sous le contrôle de Dominique Peljac, qui est toujours en ligne avec nous. C'était l'arcade, c'était pas une urgence vitale, si je comprends bien.
Non, le médecin, j'ai appelé mon médecin traitant qui m'a dit qu'il pouvait pas le recoudre. Et donc du coup, comme il était bien entaillé, il a fallu qu'on aille à Mercy pour se faire recoudre.
Oui, c'est une conséquence très... Ça vous agace, Lydie, je sens un petit peu.
Bah un petit peu, parce que on a pas mal d'hôpitaux de proximité. On en a à Yange, on en a à Briey, on en a... Mais on peut pas y aller, en fait.
Dominique Peljac, ce qu'il y a, c'est que c'est pas la première fois, et on a cité tout un tas d'autres hôpitaux ou services qui sont concernés par le même genre de mesures l'été. Ça devient structurel, en réalité, dans le pays entier. Désormais, en été, on doit fermer des services d'urgence.
Alors, je voudrais m'adresser à madame, si elle m'entend bien. Je réinsiste véritablement. Moi, vous savez, je suis d'ici, je suis du coin, je suis né ici, je suis très attaché aux hôpitaux de proximité dont vous parlez, que ce soit Briey ou en Moselle à Yange. Et c'est le travail au quotidien de faire en sorte que, encore une fois, la sécurité et la continuité des soins soient assurées. Donc, je redis, urgence vitale, prise en charge. Et si, effectivement, il y a une difficulté comme on l'a en ce moment, en période estivale au mois d'août, il y a une continuité, et je vous assure, n'hésitez pas à me solliciter, madame, ou bien évidemment les autres, lorsqu'il y a le moindre problème.
Merci Lydie, en Moselle, hein, de nous avoir appelé au 32-16. Dominique Peljac.
Alors, par rapport à votre question, oui, effectivement, il y a des difficultés, surtout sur le front que vous venez d'indiquer, et notamment dans nos territoires proches de territoires frontaliers, comme on l'indiquait tout à l'heure par rapport au Luxembourg. Mais je voudrais dire quelque chose, la solution, elle viendra de nous. Elle vient de nous parce que, précisément, nous avons fait appel à la solidarité auprès des établissements voisins, que ce soit le CHU de Nancy, que ce soit les établissements privés, etc., oui. etc. La solution, elle vient de nous. C'est-à-dire que aujourd'hui, les urgences sont également portées depuis quelques mois par les urgentistes de Metz et qui, quotidiennement, font en sorte d'apporter du temps humain, des urgentistes sur le territoire de Briey.
Dominique Peljac, directeur général du CHR Mestionville et donc de l'hôpital Maillot de Val-de-Briey où les urgences adultes sont fermées. Merci d'être venu nous expliquer ce qui est une situation à la fois locale pour vous et très concrète et en même temps qui concerne de nombreux Français qui comprennent sans doute un peu mieux la situation aussi dans leur hôpital de proximité justement. Il est 8h22. Merci Dominique Peljac. On passe à l'économie avec Pierre Rondeau. Bonjour Pierre.
Bonjour Mathieu.
OpenAI a lancé hier une version ChatGPT 13-17 ans. Mais pourquoi, Pierre ? Dans quel intérêt ?
Oui, hein, littéralement, ils sont pas foulés sur le nom, c'est ChatGPT pour les adolescents. Le but est de donner accès à l'intelligence artificielle aux jeunes dès 13 ans, avec des options spécifiques comme les aides aux devoirs ou la recherche critique d'informations. Avec ce format spécifique jeune, l'expérience sera dite collaborative. L'application incitera l'utilisateur à se poser des questions, à tenter de faire l'exercice seul. Et l'intelligence pourra faire à vos ados des exercices, des tests et des quiz pour tester leurs connaissances. De même, il y aura un contrôle du temps d'usage et l'imposition de pause si ChatGPT est trop utilisé. Enfin, l'aspect émotionnel sera renforcé, l'IA sera bridée pour éviter de laisser penser qu'elle puisse développer des sentiments trop humains.
un moyen pour l'intelligence artificielle de capter encore plus de monde.
Mais en a-t-elle vraiment besoin? C'est vraiment la question, parce que si l'on regarde le baromètre du numérique 2026, 48% des Français déclarent avoir recours de manière régulière à l'IA générative, plaçant la France à la 5e place mondiale pour l'adoption de cette technologie. Près de 33 millions de Français utilisent un service d'IA au moins une fois par mois. En ce qui concerne le public visé, c'est ChatGPT qui donne le chiffre et estime que 9 adolescents sur 10 utilise son IA pour apprendre, obtenir des informations ou développer des compétences. Autrement dit, ce nouveau service, ChatGPT pour les adolescents, sert juste à confirmer, délimiter et protéger l'usage, pas le renforcer.
Alors, confirmer l'usage pour aussi confirmer ses résultats économiques.
Oui, on y vient, forcément, on est sur le sujet. La croissance d'OpenAI est effectivement spectaculaire, alors que son chiffre d'affaires était de 13 milliards de dollars en 2025. Le chiffre d'affaires dépasse déjà les 25 milliards en 2026. Néanmoins, bien que ses résultats restent importants, ses dépenses d'investissement, de gestion et de traitement des données sont colossales. Plus de 34 milliards de dollars. Autrement dit, pour chaque dollar gagné, l'entreprise en dépense 1,36 $. Quand on sait que l'essentiel de ses recettes, 40%, passe par les services payants de ChatGPT, on peut imaginer que ce nouveau service pour adolescents soit un moyen de fidéliser une probable future clientèle. Monnaie, monnaie, monnaie.
Toujours. Et tiens, puisqu'on parle de sous, Pierre, un petit point sur les carburants.
Et puisqu'on parle de sous, ce qui est agaçant aussi, c'est que tout augmente. Les carburants augmentent. Le samplon 95 litres à 2,012 €. Le gazole, 2,22 €. C'est assez spectaculaire. Le baril aussi augmente. Donc, très certainement, ça va avoir un impact sur les prix futurs. 91,69 $. Et le gaz, lui aussi, à son tour, augmente. 63,915 €.
Bon, ben, on va se détendre maintenant, un petit peu. Hein. Il reste quoi? Il reste Arnaud Demange pour ça.
Bernard Cazeneuve vient de mettre en ligne son site internet bc2027.fr.
Oui, je propose qu'on se connecte ensemble sur son site.
Oui, allons-y. Ah.
Alors ça charge, ça, la photo se pixelise un peu, ça charge, ça y est.
Bonjour, vous êtes bien sur la page internet de Bernard Cazeneuve. Internet, c'est le futur. Nous sommes à l'aube d'une révolution. Bientôt, tout se fera par Internet. Alors, pour accompagner une France qui bouge et qui rentre dans le 21e siècle, explorons ensemble les espaces télématiques de cette page Internet. Vous avez cliqué sur Menu. Dans le menu, mon programme, mon blog, mon forum, mes photos disponibles sur mon lien MySpace en haute résolution. Vous avez cliqué sur Forum. Ensemble, échangeons sur le futur. Les États-Unis et le Japon règnent ensemble sur le marché de l'électronique et des circuits imprimés, mais nous pouvons développer des magnétoscopes français haut de gamme.
Je sais pas, moi je vais peut-être pas voter pour lui. On est à combien de candidats là?
Oh bah je sais plus là.
Quand est-ce qu'ils sortent l'album Panini? Avec les vignettes des 300 candidats dans les cours d'école, les mômes s'échangeront les autocollants.
Ils arracheraient, c'est sûr.
Théo, je t'échange mon Nicolas Dupont-Aignan contre ton Glucksmann. Oh non, il est nul ton Dupont-Aignan, j'en veux pas.
Et après votre ado Apolline va rentrer à la maison.
Maman, personne n'y veut de mon Dupont-Aignan. On peut le mettre sur le frigo?
Oh bah non, mon chéri, non. Déjà que je le prends pas pour le 8h30, c'est pas pour voir sa tronche toute la journée quand même. Faut pas exagérer.
Arnaud Demange, que vous retrouvez en podcast quand vous le souhaitez dans un instant. La météo, le journal et puis Sébastien Lecornu, le Premier ministre, qui menace de balancer le nom des assureurs qui ne joueraient pas le jeu en Gironde. La colère et la réponse finalement d'une compagnie d'assurance. C'est à 8h45 sur RMC, RMC Story, avec le directeur assurance dommage à la Massif. C'est notre invité, Yann Arnaud. À tout de suite. Il est 8h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Et on est avec Victor Pourchet pour un nouveau journal. Bonjour Victor.
Bonjour Mathieu et bonjour à tous. Géraldine, vous le disiez, on baisse le thermostat aujourd'hui. Canicule terminée hier. Les températures chutent encore pour clore la vague de chaleur la plus longue depuis 43 ans. L'État pris de vitesse par les hackers, constat des experts après une cyberattaque ayant visé l'éducation nationale qui en suit trois autres contre les impôts. Moins beau, moins gros, la grande distribution lâche du lest sur l'aspect de nos légumes pour répondre à l'appel à l'aide des agriculteurs frappés de plein fouet par la sécheresse.
Vous avez peut-être mis le nez dehors déjà à 8h30, vous l'avez senti. On respire enfin.
Et bientôt fini l'air irrespirable de l'été. La vague de chaleur débutée il y a 3 semaines. On devrait en sortir aujourd'hui. Les températures ont déjà bien baissé dans la moitié nord. Ça arrive dans le sud. Et à Sanary-sur-Mer, dans le Var, on attend ça avec impatience, Anna Jojard.
Le soleil cogne toujours contre les dalles blanches du port de Sanary.
Ah oui, il doit faire 30, plus de 30, c'est facile. Encore, on a de la chance, il y a le vent qui s'est un peu levé. Ça fait un peu d'air, donc ça fait du bien.
On sent effectivement un petit peu plus de vent frais, donc c'est plus rafraîchissant. Paraît-il que dans les prochains jours, les températures risquent de baisser, donc c'est plutôt agréable.
Des températures en dessous des 30 degrés et des orages prévus à partir de jeudi.
On va respirer.
Ça fera du bien, on verra.
Si on pouvait avoir 5-6 degrés en moins, on serait ravis.
Je pense que quand la pluie va arriver, on va avoir de quoi respirer et profiter.
Profiter. Car la vie ici tourne au ralenti depuis le début de l'été.
On vit plus. Je sais même pas comment ils font les touristes.
Hein. Muriel vit dans le sud depuis toujours, mais les chaleurs de cette année ont été particulièrement éprouvantes.
Ça a été compliqué pour tout. Je suis pas allée à la plage de l'été. Maison, boulot, dodo, pour éviter de sortir par rapport à la chaleur.
Des canicules plus longues et à répétition qui font réfléchir Martine, originaire de région parisienne, à adapter ses vacances l'année prochaine.
On viendra peut-être plus tôt, parce qu'on a le lieu, mais de saison. Mars, avril, voilà.
Une réflexion partagé par de nombreux touristes ici à Sanary.
Et sur le front des incendies, ça y est, l'un des plus gros de l'histoire de la Belgique est encerclé ce matin, même si les pompiers disent que la situation reste compliquée. Dans le Var, c'est la fin d'un combat d'un mois. Le feu du Gros Bessillon officiellement éteint hier soir. Et puis bonne nouvelle aussi dans les Landes, près de Luglon. Retour à la maison prévu ce soir pour les évacuer de ce feu fixé lundi.
Et juste après ce journal, une question. Yann Arnaud, directeur assurance dommages à la Massif. Est-ce que les assureurs assurent? Est-ce qu'ils ont bien pris d'être mis en cause par Sébastien Lecornu? La réponse est non, je peux déjà vous le dire. On l'aura avec nous juste après ce journal. Les hackers accrochent l'éducation nationale à leur tableau de chasse.
346 millions de données issues des 20 dernières années ont été aspirées. Numéro de téléphone, mail, adresse postale. La liste s'allonge après les impôts victimes d'une troisième fuite de données, moins importante que les précédentes, disait hier le gouvernement. Signe que l'État est en tout cas dépassé par cette menace, nous disait sur RMC ce matin Jean-Baptiste Souffrant. Il est avocat et ancien secrétaire général du Conseil national du numérique.
C'est plus comme si on avait perdu un badge d'entrée dans un immeuble et que du coup quelqu'un s'en était servi pour entrer. Sauf que dans un immeuble, quand il est bien conçu, vous avez le badge d'entrée, mais vous n'avez pas les clés de tous les appartements de l'immeuble non plus. Et là, visiblement, c'est un peu là que le bât blesse et que finalement, on a l'impression peut-être que on est en train de parler de sécurité informatique comme on parlait de sécurité des sites internet en 1999 ou en 2005 et qu'on n'a pas tiré les leçons du fait qu'on est en 2026, que les attaques sont très différentes, plus difficiles, que les gens sont plus numériques. Et que donc il y a aussi plus de responsabilités à avoir.
Et hier, le ministre des Comptes publics s'est excusé auprès des contribuables touchés, promettant de renforcer la formation des équipes et les protocoles de sécurité. Les avocats de Patrick Bruel balayent la polémique. Le chanteur, mis en examen, entre autres pour viol et tentative de viol, a fait une escapade à l'étranger, permise par l'allègement de son contrôle judiciaire. Tollé parmi les plaignantes et réponse des avocats de la star, Maxime Kliérusa.
Il l'affirme, il n'y a aucun passe-droit d'aucune sorte, une manière pour eux de répondre à la polémique, leur client étant parti à l'étranger après l'allègement de son contrôle judiciaire. Maître Lassec, Colin et Ingrin rétorquent qu'il est finalement de retour en France après ce bref séjour. Surtout, ils précisent que leur client ne présente pas de risque de fuite et qu'il a répondu à toutes les convocations de la justice, appelant de ses voeux, selon leurs mots, à la poursuite des investigations. Les avocats rappellent que le contrôle judiciaire ne constitue jamais une sanction et si les conseils du chanteur ont obtenu la levée de l'interdiction de quitter le territoire de leurs clients. Le parquet de Nanterre avait toutefois fait appel. La décision a été mise en délibéré au 16 septembre prochain.
Maxime Kliérusa du service police-justice de RMC. 4 ans de bataille parlementaire plus tard, l'aide à mourir est autorisée en France. Emmanuel Macron a promulgué la loi fin de vie hier soir.
Les supermarchés font un geste pour les agriculteurs.
En étant moins exigeants que d'habitude sur l'apparence des produits, sont-ils jolis? Répondent-ils ces légumes aux standards de taille de grandes entreprises, de grandes enseignes, Leclerc, U, Carrefour, Auchan ou encore Intermarché s'engagent à être moins tatillons et à mettre en avant le Made in France. Le président de l'interprofessionnel des fruits et légumes applaudit, mais Daniel Sauvêtre lance aussi un appel aux consommateurs.
Cette année, on aura sans doute quelques fruits, quelques légumes qui auront pris un peu trop le soleil, mais ils n'en seront pas moins bons, bien au contraire. Et donc, on invite vivement les consommateurs à venir se faire plaisir et à les choisir comme ils choisissaient avant les fruits et légumes parfaits sur leur épiderme. Et donc, en effet, d'accepter peut-être d'avoir des fruits un peu moins jolis. Mais je suis même prudent, hein, parce que ça sera vraiment à la marge. On n'est pas en train de changer totalement la configuration de l'étale.
Et autre coup de pouce rendu officiel pour les agriculteurs, la loi d'urgence agricole a été publiée au Journal officiel ce matin. Elle réintroduit deux pesticides jusque-là interdits en France et facilite les stockages d'eau artificiels. Deux diplomates iraniens vont être expulsés de France, annonce du chef de la diplomatie française hier soir. C'est une mesure de représailles du Quai d'Orsay un mois après des actions similaires de Téhéran à l'encontre de deux Français.
Et hier, Sophie Adnaud est entrée dans l'histoire. Elle est devenue la première Française à sortir dans l'espace.
Une mission en dehors de la Station Spatiale Internationale, une mission de réparation à moitié accomplie. Le récit de Célestin Bougère pour RMC.
La Station Spatiale Internationale survole le nord-ouest de l'Afrique lorsque l'on aperçoit Sophie Adnaud sortir du sas en combinaison. Elle demande en anglais l'accord du centre de contrôle à Houston et se lance.
J'arrive à l'extérieur.
Bienvenue dans l'espace.
Merci, je me sens bien dans l'espace. Je suis prête à commencer.
Objectif de la mission, remplacer une antenne défectueuse essentielle à la communication entre la Terre et l'ISS. Micro et caméra sur le scaphandre, tout est retransmis en direct dans le monde entier. On entend Sophie Adnaud et son binôme américain communiqué, mais les deux astronautes ont pris du retard dans leur mission. Certains boulons sont difficiles à desserrer.
Je vais essayer comme ça. 1, 2, 3.
Bon travail, les gars.
L'antenne est finalement démontée, mais il n'y a pas assez de temps pour installer la nouvelle. Retour dans l'ISS pour Sophie Adnaud et Anil Menon après 6h23 de mission.
Quelle journée! Merci à tous ceux qui ont rendu ça possible. Même s'il y a eu beaucoup d'inconnus et d'incertitudes, c'était un succès.
Aucune date n'est arrêtée pour installer cette nouvelle antenne. Prochaine sortie dans l'espace pour les astronautes de l'ISS, mardi prochain.
Et une première saluée par Emmanuel Macron, une fierté française autant qu'un horizon pour les petites filles qui rêvent d'infini, écrit le président sur les réseaux sociaux. Le foot et ce bon match nul pour Lyon, match aller des barrages de Ligue des Champions en Turquie contre le Fenerbahçe, score final 1-1. L'Olympique Lyonnais est en bonne position avant le match retour mercredi à domicile.
Les courses, le quintet qui se déroule sur l'hippodrome de Laval à 18h30.
Et un mea culpa parce qu'à 7h30 évidemment j'ai confondu les jours, ça arrive. Nous serons bien à Laval ce soir 18h30. Le pronostic de la Dream Team des courses RMC, le bon. Son favori, c'est le numéro 14, Ridley Lavec. Son outsider, le 15, Just Midi, le 14 et le 15.
Merci beaucoup.
Et merci à notre auditeur qui nous a alerté. Il y a des vigies quintées parmi les auditeurs d'RMC.
Mais moi, je vous donne les coulisses. Je vous donne les coulisses, c'est que Victor Pourchet était en train de s'enthousiasmer sur un but de, de Greenwood,
oui, c'est ça.
Ancien Marseillais.
C'est la faute de l'OM.
Toujours la faute de l'OM. Ah,
attendez que ça recommence, les saisons, vous allez voir.
Et pour taquiner Victor, c'est la première fois depuis la rentrée. Là.
C'est vrai, c'est vrai. Ça c'est reparti. Le premier jour que je reviens.
Claude est avec nous en Charente-Maritime. Bonjour Claude.
Oui, bonjour.
Comment ça va Claude?
Bien.
Vous êtes retraité grossiste. Ah, vous fournissiez les grandes surfaces?
Je fournissais pas beaucoup de grandes surfaces, très peu. À 70% de ma clientèle, c'était des détaillants. Le reste, on va dire que c'était
les marchés.
Enfin, moi, 70%, c'était les marchés, hein, les détaillants. D'accord. Et le reste, c'était de les écoles, bref.
Ah, les collectivités. Voilà. Alors, Claude, vous avez entendu que la grande distribution veut venir en aide aux agriculteurs. Ils ont souffert de la sécheresse, des conditions de canicule de cet été.
Oui.
On va revoir les calibres, assouplir en réalité, accepter des courgettes qui sont plus petites, des carottes qui sont pas droites.
Alors moi, où je voulais intervenir, c'est que on dit que sans arrêt, ce sont les grandes surfaces qui ont fait les normes. Les normes existent depuis dans le fruit et légumes, puisque mon père était aussi grossiste avant moi, et j'ai commencé en 73 avec lui. Et les normes existaient déjà, hein, catégorie 1, catégorie 2, etc.
Oui, c'est pas nouveau, quoi.
C'est pas nouveau. Ça a été instauré dans les années 50 et ensuite dans les années 60 avec la CEE, qui nous permettait d'exporter. Et donc, les normes étaient internationales.
Non, mais bien sûr. Alors, ça c'est pour l'histoire. Après, on peut peut-être aujourd'hui réfléchir à l'idée que
la grande surface est liée pour rien du tout là-dedans, je veux dire.
Vous dites, c'est pas de leur responsabilité, c'est des normes qui ont été établies auparavant.
Pas du tout. La seule différence, c'est que la grande surface achète au téléphone, par rapport à un détaillant qui se déplace. Donc la grande surface, quand elle achète le téléphone, elle veut par exemple tomates catégorie 1.
Voilà.
Eh ben, il faut que le fournisseur lui donne des tomates catégorie 1.
Et que ça corresponde à la catégorie. Non, mais Claude, c'est bien de le préciser. Vous avez raison. Et on est tous un peu responsables aussi hein, dans ce débat-là de ce qu'on achète, parce que la grande surface vous répondra que de toute façon, si le fruit est hors calibre, etc., le client ne l'achète pas. On a eu quelques réactions ce matin sur les fruits et légumes.
Oui. Élise. Alors, vous êtes assez nombreux ce matin à nous dire qu'importe la tête et le look finalement de mon fruit ou de mon légume. Ce qui m'importe, c'est son prix, et ce sera ça aussi l'enjeu dans les prochaines semaines. Et je voudrais vous lire le message de Mathieu aussi qui nous écrit ce matin. Il faut arrêter de dire que les supermarchés font un geste pour les agriculteurs. Ils acceptent ça simplement parce qu'ils savent que sinon, ils n'auront pas assez de fruits et de légumes à proposer à leurs clients. Évidemment, ils y ont un intérêt aussi à accepter les fruits et les légumes moches. Hein.
On n'aura pas de pénurie, mais on n'aura pas les calibres. Quoi. Merci Mathieu et merci à Claude aussi qui était en ligne avec nous au 32-16 ce matin, 8h41.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, c'est le choix de la rédaction, les piratages en série, les fuites de données massives qui nous rendent parano. Alors comment protéger nos données? On vous dit tout dans un instant sur RMC. RMC Story, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 8h44 sur RMC et RMC Story. Très bon réveil à tous. La cybersécurité au cœur de l'actualité, de notre quotidien, partout en ligne, nos données personnelles peuvent faire l'objet d'un piratage. Le groupe de cybercriminels Zero Bytes a revendiqué hier le piratage de 346 millions de lignes de données de l'éducation nationale. Quelques jours seulement après avoir revendiqué le vol de données fiscales de plus de 500 000 particuliers et professionnels. Un constat, une réalité qui est loin de rassurer les internautes, Vincent Chevalier.
Certains citoyens ont bien intégré le risque de mettre ces données en ligne.
Moi, je pense qu'on aurait raison de se sentir inquiet.
Édouard fait partie de ces Français qui ne se font pas d'illusions.
Si on n'est pas inquiet, faut vite l'avoir intégré. C'est-à-dire partir du principe que, d'une manière générale, toutes nos données sont susceptibles d'être piratées si elles l'ont pas déjà été.
Cette vigilance devient même fatigante selon ce quinquagénaire. Mais pas le choix, l'actualité ne rassure pas vraiment Agathe.
On se dit qu'on est en danger de partout. Toutes nos données sont dans nos téléphones, que ce soit nos empreintes, nos codes, enfin on a tout, nos numéro de banque, on a tout dans les téléphones, ça devient super, super dangereux.
Une quasi-paranoïa entretenue par les nombreux messages suspicieux souvent reçus.
Les messages de la caisse, enfin de Amélie, qui nous disent qu'il faut bien retaper tous nos codes et autres pour remettre la carte vitale à jour. On clique pas dessus, enfin on essaie de faire attention, mais ça peut être très vite fait. Quoi.
Alors certains entrent en résistance, pas question de se faire avoir ni de céder au tout numérique. Gisèle, 86 ans.
Tous les numéros qui sont faits dans mes contacts, je ne répond jamais. Oui, les mails aussi. D'ailleurs, ils vont souvent aux indésirables. Quand je veux avoir un décompte, je vais à la banque, à la machine. Jusqu'à présent, je résiste.
Alors, il n'y a pas que les particuliers hein, qui ont compris les risques, Vincent, les TPE, les PME aussi.
Oui, elles sont de plus en plus nombreuses à s'équiper. Selon le baromètre France Num, 84% d'entre elles disposent de moyens de cybersécurité, mais ils sont souvent trop basiques. La faute à des budgets dédiés encore trop faibles. Trois quarts d'entre elles consacrent moins de 2000 euros par an à la sécurité informatique, même si ces budgets ont tendance à augmenter, selon Karl André, dirigeant fondateur de Nostranode, qui aide ces entreprises à se défendre.
Les budgets alloués, oui, c'est là où justement donc il y a eu une vraie prise de conscience. On voit bien que avant, c'était probablement l'un des postes les moins mis en avant. Aujourd'hui, ce n'est plus vrai. Ça devient vraiment un enjeu stratégique. Les budgets ont évolué. Les chefs d'entreprise revoient un petit peu leur copie et placent presque ce poste-là, finalement, au premier rang aujourd'hui, pas loin.
Mais alors, comment faire, Vincent, pour protéger ces données en ligne ?
Pour les entreprises, le meilleur conseil est de faire appel à des professionnels. Pour des particuliers, en revanche, malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. Le mieux est peut-être de limiter le nombre d'inscriptions à des sites et éventuellement de modifier quelques données à l'inscription, comme l'identité ou la date de naissance. Mais même cette technique présente ses limites, selon Corinne Hénin, experte en cybersécurité.
Vous pouvez toujours essayer de les falsifier. Souvent, vous serez confronté aux conditions générales d'utilisation du site qui vont vous dire qu'il faut que ce soit une personne existantes pour pouvoir s'en servir. Le mieux, c'est de se poser la question est-ce que j'ai vraiment besoin ou pas de ce site-là et de ne pas ouvrir de compte sur un site où on pense y aller une seule fois. Ça limite les informations que l'on laisse dans la nature.
Problème, impossible de falsifier pour des sites comme ceux de l'administration. Reste donc à lui faire confiance pour protéger ses données et ce n'est pas toujours un succès.
Merci beaucoup, Vincent Chevalier. C'était le choix de la rédaction. Il est 8h48 sur RMC et Sébastien Lecornu qui menace de donner les noms des assureurs qui ne joueraient pas le jeu après les méga-feux de Gironde. Yann Arnaud, directeur des assurances et dommages à la Massif, lui répond dans un instant sur RMC, RMC Story. À tous.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Il est 8h50 sur RMC et RMC Story. Les assureurs sont-ils de mauvais payeurs? Bonjour Yann Arnaud.
Oui.
Le directeur assurance dommage à la Massif. Le Premier ministre était en Gironde lundi pour rencontrer les sinistrés et les pompiers et annoncer toute une série de mesures pour sa mission reconstruction. Il a aussi parlé de vous, les compagnies d'assurance.
Je pense même il a parlé de nous. Nous sommes fait engueuler à la place des assureurs. Donc nous ne manquerons pas évidemment de restituer aux assureurs ce que nous avons entendu. On n'est pas là pour taper sur elles. Enfin, je le dis quand même, celles et ceux qui joueront le jeu, on dira lesquels. Et celles et ceux qui ne joueront pas le jeu, on dira lesquels aussi.
Alors vous n'avez pas apprécié d'être pris pour cible par le Premier ministre. Il dit qu'il s'est fait engueuler à votre place.
Ouais, c'est bizarre parce qu'en fait, on est sur place depuis un certain temps. Nous-mêmes, à la Massif, on avait délégué une équipe mobile la semaine dernière qui était au marché du Porge, hein, à rencontrer nos sociétaires. Et globalement, pour l'instant, il y a pas de remontée. Évidemment, il y a des choses à régler, il y a des demandes d'informations. Les gens qui vivent ces situations qui sont dramatiques, ils ont besoin, hein, encore une fois, qu'on leur explique, parce que c'est la première fois de leur vie qu'ils sont confrontés à ça. Et nous, en tant que professionnels, on a besoin de leur expliquer ça. Mais franchement, ça ressemble à une polémique qui n'avait pas lieu d'être. Donc on sait bien, hein, que ça s'est pas super bien passé.
Il dit qu'il donnera le nom des assureurs qui ne jouent pas le jeu.
Eh ben, dont acte, parce que d'une certaine manière, comme je pense que tous les assureurs aujourd'hui jouent le jeu non seulement, mais travaillent bien, je rappelle que dès le début des événements, on a relogé plus de 30 000 personnes. Hein, donc, c'était pas dans les contrats. Ça, hein, il faut bien, on a souvent le procès de l'assureur, il fait pas son boulot, etc. Il n'y avait pas de dommages et donc néanmoins il y avait des gens qui ont été déplacés dès le début de manière administrative. Les assureurs en fait ont fait en sorte de reloger ces personnes, de leur fournir des kits de première nécessité, des fois de l'assistance psychologique, oui, parce qu'il y avait vraiment des gens qui étaient en crainte. Donc je pense qu'encore une fois, on peut comprendre les circonstances, hein, qui ont amené à une certaine tension. Maintenant, il faut pas alimenter ce genre de clichés. C'est un peu dommage que le Premier ministre l'ait fait, peut-être un peu pour, je dirais, allez, nous motiver. On est très motivés. Et surtout, on a des clients, on a des assurés.
On va le prendre à moitié plein, le verre. Il n'y a pas de problème, Yann Arnaud. Alors, simplement, les compagnies d'assurance sont étendues jusqu'au 31 août, contre 5 jours habituellement. Le délai octroyé aux sinistrés, particuliers, entreprises, pour transmettre leur déclaration. Aujourd'hui, vous pouvez faire un point d'étape. On en est à combien de dégâts de votre côté? Vous êtes capable de chiffrer?
Oui, alors bon, on a 2000, par exemple, pour la Massif, on a 2600 sinistres qui ont été enregistrés, hein, ce qui est assez considérable. Alors, je vous parle Gironde, Landes et puis Var aussi, hein, qui a été touché. Il y en a déjà une partie qui est réglée, hein. On se pose souvent la question de, est-ce que mon assureur va être long à me rembourser? Ben, nous, on a déjà, sur ces 2600, on a 600 sociétaires. Alors, évidemment, les sinistres les moins graves qui ont été remboursés. Mais globalement, il y a, dans ces 2600 sinistres, il y a 47 maisons qui sont totalement détruites. Et là, il va falloir du temps. Parce que vous imaginez bien que nous, on va pouvoir dire, c'est un préjudice qui voit ça. Par contre, derrière, reconstruire, c'est pas comme une voiture, en fait, une habitation. Il va falloir la reconstruire. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir trouver des maçons, il va falloir trouver des charpentiers, il va falloir trouver toutes ces personnes. Et quand on a une maison individuelle qui est détruite, finalement, des artisans, il y en a tout autour. Mais quand il y en a quasiment 240 ou 250, comme c'est le... Pardon, plus aux alentours de 450, hein, sur l'ensemble des territoires, ça veut dire que forcément, ça va prendre du temps. Et donc, il faut prévenir les gens, il faut être honnête avec les gens, il faut leur dire, ça ne sera pas l'assurance qui posera problème. Sébastien Lecornu a fait une bonne annonce quand même, hein, je lui reconnais ça. Il a dit, on va accélérer les permis de construire, en un mois, on va délivrer des permis de construire. Dont acte, hein, que l'État prenne ses responsabilités.
On suivra parce que vous alertez. Effectivement, il ne faut pas croire que si l'assurance assure, ça ne veut pas dire que les gens seront chez eux à Noël pour ceux dont la maison a été détruite. Simplement une question, Élise, qui nous est arrivée sur le WhatsApp RMC.
Oui, question de Philippe qui s'interroge. Comment se fait-il que les assureurs ne vérifient pas s'il y a des coupe-feu autour des résidences de leurs assurés de façon à adapter leurs tarifs?
C'est une chose à laquelle vous allez penser, Yann Arnaud?
Ouais, c'est des choses de toute façon, hein, de manière générale, par rapport à ce risque climatique qui est en train de monter, il va falloir que pas simplement les assureurs, mais finalement tous ceux qui sont préoccupés par la vie des gens fassent en sorte, encore une fois, de mettre en place des mesures de prévention. Nous, on est intimement convaincus que la meilleure protection des Français et l'équilibre finalement du régime catastrophe naturelle, mais finalement de l'assurance de manière générale, elle passera par travailler sur la prévention. Alors après, vous savez, les coupe-feux. Ce qui est difficile, c'est qu'il faut y avoir un lien en permanence. C'est pas parce que vous avez un coupe-feu qui a été prévu ou vous n'avez pas planté d'arbres, etc., qu'il a été désherbé et donc bien entretenu. Donc l'idée, c'est encore une fois, il faut qu'on ait autour de ça une vigilance constante et donc effectivement très bonne initiative dans un certain nombre de cas, comme par exemple sur le risque sécheresse. On demande aux gens, maintenant, on leur dit, ne plantez pas des arbres trop près de la maison parce que sinon ils aspirent l'eau et donc tous ces phénomènes, encore une fois, de retrait gonflement des argiles, ils sont accentués par ça. Donc il y a tout un tas de choses, effectivement, sur lesquelles on va devoir travailler dans les années à venir.
Ouais. Merci beaucoup Yann Arnaud d'avoir répondu à nos questions, d'avoir répondu aussi à l'invective du Premier ministre lundi. Yann Arnaud, directeur assurance dommage à la Massif, en direct sur RMC, RMC Story. Merci mille fois. Alain Marchal est arrivé, c'est l'heure des grandes gueules, ça va démarrer.
C'est l'heure des grandes gueules, 9h midi, bien sûr, avec en invité le député France Insoumise Adrien Clouet, à la veille de l'ouverture des journées d'été de la France Insoumise. On reparlera du parquet de Crépol qui ne retient pas pour le moment le racisme anti-blanc dans le meurtre de Thomas Perretto. La maire de Romans-sur-Isère dit pourquoi ? Parce que c'est une question qui dérange et je trouve que le parquet est frileux. Est-ce qu'elle a raison ou pas ? Et puis on reparlera de ces associations de protection des animaux qui disent aux chasseurs, n'allez pas chasser là où ça a brûlé. La faune a déjà été détruite, il faut continuer de l'épargner. Les chasseurs disent, non, désolé, nous on sait ce qu'on doit prélever, on sait ce qu'on a à faire. On est reparti sur l'éternel débat, est-ce que les chasseurs doivent s'abstenir de chasser dans les zones incendiées ? 32-16 pour en parler avec les grandes gueules.